Nous allons lire maintenant dans l'épître de Jacques, chapitre 1er. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous ajoutons encore un verset, l'évangile de Jean, chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Eh bien, ce matin, nous allons parler d'épreuves. Dans le premier passage, il est question de patience également, mais si le Seigneur le permet, une autre fois, nous parlerons sur cette question-là, la patience. Lorsque le salut de Dieu nous atteint, nous sommes sauvés, bien sûr, mais il nous semble alors que rien de fâcheux ne doit plus nous arriver. Certes, nous n'en sommes plus là, nous savons qu'il en est autrement. Mais nous avons tous cru qu'il en était ainsi. Plus jamais, rien de fâcheux ne pouvait nous arriver. Ni accident, ni maladie, ni épreuve désagréable d'aucune sorte, ni tribulation. Toutes ces choses étaient pour les autres, mais pas pour nous. Ainsi, certains chrétiens sont-ils surpris et trouvent-ils étrange qu'il leur arrive des épreuves, disons en grand nombre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'apôtre Pierre, lui, nous dit dans sa première épître au chapitre 4 et au verset 12 ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Voilà donc, ne soyons plus surpris. Premièrement, il y a les épreuves que nous subissons malgré nous. Ce sont les conséquences des événements, de la méchanceté des hommes, de l'adversité, par exemple les conséquences des guerres. Nous sommes dans ce monde, nous les subissons. Il y a aussi les conséquences de calamités naturelles. Nous sommes dans ce monde et nous les subissons. Par exemple, les tremblements de terre, que Dieu garde, nous garde. Les famines, les inondations, par exemple, et toutes sortes de troubles. Ces épreuves ne sont pas les conséquences de nos fautes particulières. Bien sûr, toutes ces choses arrivent comme étant la conséquence du péché, mais pas de nos fautes particulières. Et je vous donne un exemple. Évangile de Marc, chapitre 4, versets 35 à 37, vous connaissez de quoi il s'agit. Il est question de la tempête sur le lac. Le Seigneur Jésus a donné ordre de passer de l'autre côté, sur ce lac, le lac de Génézareth. Il y a la barque où est Jésus avec ses disciples, et il y a aussi, nous est-il dit, d'autres barques. La tempête se soulève et aussi bien la barque où est Jésus que les autres barques subissent cette même tempête. Et frères et sœurs, nous sommes dans ce monde lorsque des épreuves arrivent, de quelque nature que ce soit, nous, les enfants de Dieu, nous subissons ces mêmes épreuves comme les autres. Le Seigneur nous a donné aussi une parabole. Il nous parle de l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et il nous parle aussi de l'homme qui a bâti sa maison sur le sable. La maison de l'un, comme la maison de l'autre, eh bien, a subi la même épreuve, la même tempête. Ne concluons pas quant aux conséquences. Ce que je veux dire, c'est que, étant dans ce monde, nous subissons certaines épreuves indépendantes de notre volonté et même de notre comportement. L'Ecclésiaste conclura très bien. Il dira, tout arrive également à tous. J'aime bien ce verset-là, frères et sœurs, parce que c'est la parole du Seigneur et combien cela est vrai. Tout arrive également à tous. Alors ne soyons pas scandalisés pour dire pourquoi nous, nous qui sommes les enfants de Dieu, eh bien tant que nous serons ici-bas, nous subirons ces épreuves. Mais nous avons le Seigneur et c'est là notre recours. Il y a aussi les épreuves que nous provoquons. C'est le deuxièmement. Ces épreuves sont les conséquences directes de notre vie spirituelle défectueuse. Ces épreuves sont néfastes pour nous et pour les autres. Et c'est ce qui est grave. Néfastes pour nous et pour les autres. Et le Seigneur Jésus a dit, « Malheur à l'homme par qui les scandales arrivent, mieux valait pour lui qu'il ne soit pas né. » Alors ne soyons pas de ceux qui provoquent ces épreuves. Mais je vais prendre trois exemples dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, tout d'abord, l'exemple de Jonas que vous connaissez fort bien. Le Seigneur a chargé le prophète Jonas d'apporter son message à Ninive. Jonas, lui, est descendu à Jaffa, il a trouvé un bateau, et au lieu d'aller à Ninive, il voulait atteindre Tarsis. Et cependant, une tempête se déchaîna sur le lac, et tout le monde fut en émoi. On chercha pourquoi et qui avait provoqué cette tempête. Et voilà, on trouva au fond du bateau un homme qui dormait. On fit une enquête serrée et puis on fit subir à cet homme qui était Jonas un interrogatoire serré également. À quel peuple appartiens-tu? D'où viens-tu? Quelles sont tes affaires? Où vas-tu? Et si bien, on l'a pressé si bien, qu'en définitive, Jonas a avoué. Il a dit ceci, au verset 12, chapitre 1, verset 12, « Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette tempête. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette tempête. » Quelle grande responsabilité! C'est lui qui a attiré cette tempête, non seulement sur lui-même, mais aussi sur les autres. Combien cela est grave! Prenons un autre exemple, l'exemple du roi David. Le roi David a voulu faire le dénombrement. Et Joab, son général en chef, lui dit que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Mais David s'entêta, il voulut absolument faire ce dénombrement. Alors l'Éternel lui envoya le prophète Gad, et le prophète lui dit, « Choisis, ou bien 7 années de famine, ou bien 3 mois de défaite devant tes ennemis, ou bien 3 jours de peste. Choisis un de ces fléaux, et je te frapperai par ce fléau choisi. » Et bien sûr, la réponse de David, tout le monde connaît, « Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel !» Mais voilà, le Seigneur a quand même frappé de la peste, et l'ange de l'Éternel exerçait ce jugement, et à un moment donné, eh bien, David fut vraiment ému et réalisa que c'était par sa faute que le peuple était frappé. Alors il a dit, « C'est moi qui suis coupable, ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit sur moi et sur ma maison. » Frères et sœurs, c'était encore lui, voyez-vous, qui avait provoqué cette épreuve, et le peuple en avait subi les conséquences. Alors faisons bien attention de manière à ne point provoquer des épreuves inutiles. Troisième exemple, prenons l'enfant prodigue, évangile de Luc, chapitre 15, que vous connaissez fort bien. Ce jeune homme a demandé la part de bien qui devait lui revenir, et il a ramassé tout ce qui lui revenait et s'en alla. Mais, frères et sœurs, il provoqua de véritables tempêtes. En effet, il s'en alla au loin, et il dépensa tout son avoir, il se plongea dans le péché jusqu'au cou, en dépensant tout son bien avec les prostituées, nous dit la parole, il devint esclave, et enfin il retourna. Mais enfin, voilà toutes les tempêtes qu'il a déchaînées pour sa propre personne, sans compter son père, qui souffrit certainement énormément et attendit son fils dans l'angoisse. Il a provoqué aussi la colère de son frère, la haine de son frère, le mépris de son frère. Voilà le prodigue qui, par sa faute, a provoqué tant de tempêtes. Il y a aussi, frères et sœurs, les épreuves nécessaires, les épreuves normales. L'épreuve de notre foi, par exemple, mais j'aimerais dire d'une façon générale, l'épreuve de notre vie spirituelle. Que vaut notre vie spirituelle? Quelle en est sa solidité? Le soleil est-il nécessaire à la croissance de la bonne semence? Oui, le soleil est nécessaire. Et le Seigneur nous parle de la bonne semence qui a été semée dans une bonne terre, mais également il en est tombé sur un terrain caillouteux. Le soleil s'est levé, Le soleil est nécessaire pour la croissance, pour la maturation. Sans le soleil, point de blé, point de farine, point de pain, parce qu'il n'y aurait pas de maturation. Mais voilà, ce même soleil, nous est-il dit, lorsqu'il a dardé ses rayons, la même bonne semence jetée sur le terrain caillouteux, nous est-il dit, sécha à cause du soleil et faute de racines. Alors, frères et sœurs, est-ce que nous sommes bien enracinés en Christ? Si nous sommes bien enracinés en Christ, l'épreuve nous affermira. L'épreuve nous obligera à nous approcher plus près du Seigneur encore. Mais si nous ne sommes pas bien enracinés, alors l'épreuve nous éloignera du Seigneur. L'épreuve, en effet, si nous ne sommes pas bien enracinés, affaiblit la foi. Pourtant, je crois, et pourquoi le Seigneur ne vient pas à mon secours. La prière également disparaît. On ne prie plus. L'Éternel n'exauce pas. La méditation de la parole, se fait rare, on connaît tout. La confiance diminue, la joie disparaît également, ainsi que l'assurance. Mais pour les vrais enfants de Dieu, l'épreuve est mesurée, et après l'épreuve, la bénédiction est pleinement accordée, et l'enfant de Dieu, par l'épreuve, s'est approché encore plus près du Seigneur. Je vous ai donné une fois l'exemple de petit enfant avec sa maman, qui marchait sur un terrain glissant. Et vous savez, comme tous les enfants, il ne voulait pas que sa maman lui tienne la main. Mais voilà, arrivé sur ce terrain glissant, il a vu que c'était dangereux. Alors l'enfant s'est approché de sa maman et puis a pris le petit doigt. Et alla un peu plus loin, ça devenait encore plus dangereux. Alors il lui a pris la main. Et encore, voyant que le danger était réel, il lui dit, « Maman, prends-moi dans tes bras. » Eh bien, c'est un peu cela, n'est-ce pas? L'épreuve doit nous approcher plus près du Seigneur et non point nous en éloigner. Il y a des épreuves particulières permises par le Seigneur. Ce sont des épreuves sur mesure pour chacun, adaptées à la personne même. Le trait caractéristique de ces épreuves, c'est de mettre en évidence ce que nos cœurs contiennent, ce que nous sommes réellement et non pas ce que nous croyons être. En effet, par exemple, concernant le peuple de Dieu, nous lisons dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2. « Souviens-toi, dit l'Éternel à son peuple, de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. » Si on eût demandé au peuple d'Israël, « Garderas-tu les commandements de l'Éternel ?» Il aurait répondu, « Mais bien sûr que je garderai les commandements de l'Éternel. » Mais le Seigneur a voulu d'abord l'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de cœur de son peuple. L'Éternel sait tout. Il n'a pas besoin de ces épreuves pour savoir ce qu'il y a dans ses créatures. Mais c'est la créature qui a besoin de savoir ce qu'il y a dans son cœur. Et en général, nous ne savons pas. Nous avons une excellente opinion de nous-mêmes. Et c'est là notre tort. En effet, je vous ai donné une fois cet exemple de l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois, et au chapitre 8, il nous est dit dans ce passage que le roi Ben-Hadad de Syrie était malade et qu'Élisée le prophète est allé donc à Damas. On avertit le roi, voici l'homme de Dieu. Et le roi envoya Hazaël. Hazaël alla au-devant d'Élisée, et lorsqu'il arriva, il posa la question, bien sûr, si le roi guérirait ou non. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas cela, c'est que le prophète a fixé les regards sur Hazaël longtemps, et puis ensuite, il se mit à pleurer. « Pourquoi pleures-tu, mon Seigneur ?» Élisée lui dit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville, tu tueras leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants. » Et la suite, c'est encore plus triste. Et Hazaël est tout étonné. Comment ton serviteur, très oriental, ce chien, va faire de telles choses? Et Hazaël était certainement sincère quand il disait cela. Eh oui. Et pourtant, lorsque Ben-Hadad est mort, qu'Hazaël a pris la place, il fit ce que le prophète avait prédit. Nous ne savons pas, frères et sœurs, tout le mal qu'il y a en nous. Et voilà donc, l'épreuve est nécessaire afin de dévoiler, faire venir à la surface ce qui est caché au plus profond de nos cœurs. Je vais être obligé encore de m'adresser à notre brave apôtre Pierre, il nous apprend beaucoup de choses, dans ses qualités comme dans ses défauts. Et l'exemple de Pierre est très frappant. L'apôtre Pierre ne savait pas que dans son cœur il y avait de l'orgueil. Il ne savait pas que dans son cœur il y avait de la lâcheté. Il ne savait pas que dans son cœur il y avait le reniement, reniement de son Seigneur. Il ne savait pas que dans son cœur il y avait du mensonge. Ah, si on eût dit, tu es un orgueilleux, un lâche, un menteur, ah, il aurait protesté, certainement. Mais voilà, l'épreuve est venue. Une servante lui a dit, mais je t'ai vu avec ces hommes. Ah non, je n'en suis point. Et ensuite, concernant le Seigneur Jésus, mais je ne connais point cet homme, je ne sais point de quoi tu parles. Et trois fois, il a renié son Seigneur, avec pas mal de mensonges également. Pierre ne se connaissait pas, mais est-ce que vous vous connaissez, frères et sœurs, est-ce que je me connais? Nous avons de très bons moments, mais en d'autres, il y a aussi d'autres moments où nous ne nous reconnaissons pas. Et peut-être même après un éclat, nous nous ressaisissons et nous disons, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Que le Seigneur donc nous aide en cela, afin que nous ne tombions point dans ces pièges, mais qu'au contraire, nous soyons de véritables enfants de Dieu pour glorifier le Seigneur de tout notre cœur. L'épreuve est nécessaire donc pour abattre notre orgueil, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'épreuve est nécessaire pour que nous n'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes. L'épreuve est nécessaire afin que nous ne méprisions point notre prochain. L'épreuve est nécessaire afin que chacun connaisse sa juste valeur. Et en terminant, je dirais, l'épreuve sous ses diverses formes est une puissance qui travaille pour notre vie. En effet, par la patience, et la patience à son tour travaille pour que nous arrivions enfin au résultat désiré par le Seigneur. Il y a donc suffisamment d'épreuves qui nous entourent. N'en provoquons point d'autres encore, mais au contraire, appliquons-nous à servir le Seigneur comme il le désire, dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience, jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen.